Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir y aller, on est déjà un peu en retard. Très à cheval sur les horaires ici, je vais me faire taper sur les doigts. Bonjour à tous, bonjour à mes invités. J'ai le plaisir d'animer cette rencontre intitulée « Pour que justice soit faite ». Ça claque. Je vais peut-être vous présenter rapidement quand même. Donc Véronique Soucet, vous êtes diplômée de l'École nationale d'administration pénitentiaire. Vous avez exercé dans différents établissements. Vous êtes actuellement à Rennes, l'établissement pénitentiaire pour femmes. Et en parallèle, vous avez aussi mené une carrière d'avocate pénaliste, que vous, d'ailleurs vous racontez, en tout cas une des expériences que vous racontez dans votre premier livre. Qui s'appelle donc Défense légitime. Vous revenez là avec un deuxième livre, Fragments de prison, qui est un objet un peu qui prend plusieurs formes, mais qui est des anecdotes, des rencontres, des portraits de gens en prison et qui donne un autre éclairage au-delà des clichés sur l'incarcération. Julia Minkowski, vous êtes avocate pénaliste vous aussi. Vous avez participé à des affaires assez connues comme Big Malion, Clearstream. Et puis, je crois que vous avez commencé avec l'affaire Agnès Leroux, avec votre mentor Hervé Temim. Alors, vous êtes très engagé dans un combat qui est mettre en lumière la place des femmes dans la défense pénale. Et c'est ce que vous avez essayé de traduire avec votre premier livre, « L'avocat était une femme », que vous avez coécrit avec la journaliste Lisa Vignoli, qui est d'ailleurs romancière aussi. Et un premier roman à la rentrée, donc le passage un peu dans la fiction, même si c'est inspiré d'une histoire vraie, la célèbre affaire des sœurs Papin, mais avec un coup de projecteur, encore une fois, mis sur l'avocate, qui était une femme. On aura largement l'occasion d'en reparler. Et puis Asdine et Valentin, donc Asdine, tout le monde vous connaît hein, maintenant depuis que vous êtes à Quotidien. Vous êtes passé par les colonnes du Parisien, d'abord dans les faits divers, journaliste politique, puis par M6, je crois. Et donc, Valentin Pasquier, vous dessinateur de presse, aussi pour le Parisien, c'est ça ?
Oui.
Okay. Et spécialisé dans les affaires judiciaires. Vous avez couvert d'autres affaires, Daval, je crois que le caporal Noyer.
Oui, ouais. Tout à fait, oui.
Et vous étiez tous les deux donc au procès du 11 novembre, du 13 novembre, pardon, et que vous avez suivi pendant de longs mois, 10 mois, et que vous nous racontez dans un livre illustré. Ma première question, elle est pour vous deux. D'ailleurs, peut-être une première question pour ceux qui ne sauraient pas. Pourquoi on dit V13 ?
Alors V13, c'est le nom qui a été manière peut-être surprenante, mais choisi par les magistrats, par les enquêteurs. Parce que ça s'est passé un vendredi 13. Alors, moi, quand, c'est vrai que je l'ai appris comme sur le tard. Moi, j'étais un peu surpris parce que ça désigne aussi, enfin, ça rappelle un film d'horreur, vendredi 13. Mais il y avait peut-être ce côté pratique de pouvoir désigner un dossier assez rapidement. Et c'est comme ça, c'est rentré dans notre langage quotidien, de se dire, bon, bah, tu vas à V13, dans V13, il y a ça, tu as entendu dans V13. Et évidemment, on ne voyait pas un autre nom pour ce livre de dossier V13, nous paraissait voilà, légitime.
Un nom qui est aussi le titre d'un autre livre, on aura peut-être le temps d'en parler.
Chut, tabou.
Alors, petite question, est-ce que vous connaissiez avant le procès ou vous êtes rencontrés lors du procès ?
Non, en fait, on travaillait tous les deux pour des rédactions respectives, donc Asdine pour Quotidien, pour TMC, et puis moi pour France Inter, Le Parisien et Ouest France. Et en fait, au-delà de nos travails respectifs pour nos rédactions, toi tu avais l'idée, enfin tu vas peut-être en parler, tu avais l'idée de faire un livre et ensuite avec les éditions Plomb. Et ensuite, Asdine et les éditions Plomb sont venus me chercher pour réaliser justement ce que vous disiez, ouais, un récit avec les textes d'Asdine, mais le mettre en voilà le mettre enfin le faire un roman dessiné quoi avec pas mal de dessins. Ouais.
Parce que l'idée qui est née est la suivante, c'est on a commencé par suivre ce procès et au fil des premiers jours, des premières semaines, on se rendait compte que le qualificatif historique hors norme qu'on aimait apposer dans les médias, on l'a ressenti d'une manière forte. Et comment ne pas laisser cette actualité en quelque sorte s'évaporer au milieu d'autres sujets, de JT, de chaînes d'infos. Donc le format, enfin le livre nous paraissait le document le plus évident. Et comme par définition, un procès en France ne peut pas être filmé, on ne peut pas prendre de photos, l'envie de faire visualiser au public qui par définition ne peut pas voir ce qu'on a vu me paraissait évidente cette idée. Et quand j'ai cherché avec plomb un dessinateur de presse, les dessins de Valentin Pasquier m'ont paru les plus réalistes, les plus colorés, et parce que parfois dans un procès pénal, la tendance des dessinateurs, c'est de rendre la réalité plus sombre, des accusés méchants. Bah, parfois, non, c'est la Deslam, il arrivait, la tête haute, bien habillé, heureux, il avait un sourire. Alors, ça voulait dire quelque chose, voilà. Donc, et ça, je le retrouvais dans les dessins de Valentin, c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble.
Puis, pour continuer, ouais, le but aussi, c'était de faire un ouvrage grand public, et le fait... Le monde de la justice, ça peut peut-être paraître aride, voilà, plein de protocoles, des robes, voilà. Et c'était aussi une façon de documenter toute cette histoire-là, de montrer voilà, ce à quoi ça ressemble.
D'ailleurs, c'est l'occasion de mettre un coup de projecteur sur un métier qui est assez méconnu, alors qu'il est quand même d'intérêt public et très important, c'est celui de dessinateur au cœur des procès. Dans la salle, en fait, vous n'étiez pas au même endroit, c'est ça? Les dessinateurs ont carrément un carré un peu VIP, ouais, pour avoir...
C'est ça, en gros, pour visualiser, il y a la cour voilà, qui fait face à toute la salle, un peu comme nous avec vous. Et donc, il y a quelqu'un qui se tient devant la barre, qui dépose un témoin, ça peut être un gendarme, des victimes. Et nous, en fait, on était vraiment au pied, comme si on était au pied de l'estrade, en fait. Donc, à dessiner la personne qui dépose à la barre, le ministère public sur la gauche. Voilà, on était vraiment au cœur des débats, on va dire. Et donc, il y avait des tables d'avocats et puis la presse. Enfin, toi, tu étais sur les bancs de la presse, voilà, un peu plus au fond de la salle.
Et c'est pour ça que Valentin a été précieux dans ce travail, parce que déjà, il était les yeux que je ne pouvais pas être, parce que j'étais au fond de la salle. Il avait une place presque plus privilégiée que le président de la cour d'assises par rapport aux accusés, puisqu'il était encore plus proche. Donc il y avait la salle, mais il y avait aussi les alentours, les lieux annexes, comme la place Dauphine, qui est juste derrière le palais de justice, là où des familles de victimes croiser les avocats de la défense dans parfois un moment un peu joyeux d'avant-procès qui était assez troublant quand on n'a pas l'habitude. Et en fait, ça nous disait presque que le procès, il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. On acceptait quelque part presque ce théâtre judiciaire, mais que la justice, elle était rendue à l'intérieur. Et puis, il y avait aussi des endroits que j'ai découverts qui étaient en fait des vrais endroits d'influence, comme les toilettes du palais de justice, où l'avocate, par exemple, Olivia Ronen de Salah Abdeslam, comme on dit, elle grenouillait un peu autour des journalistes pour faire passer, évidemment, des éléments de langage, pour discuter, pour faire de l'influence, comme font les hommes politiques. Eh bien, les avocats avaient intégré la puissance de la presse pour pouvoir... alors, je ne sais pas si c'est faire basculer l'opinion, mais faire passer une petite idée.
Ouais. Et en racontant une forme d'histoire qu'ils avaient préméditée. Ça rejoint d'ailleurs Julien Minkowski. J'ai eu quelque part qu'en fait, votre vocation d'avocate, elle était peut-être quelque part née dans les livres. On est un salon de littéraire. C'est Agatha Christie, c'est ça?
Oui, très jeune, grâce à ma mère, j'ai lu beaucoup de romans policiers, Agatha Christie, Ruth Rendell, ensuite Elizabeth George, il y avait Marilyn Clark quand j'étais jeune. Et donc c'est vraiment le romanesque qui m'a emmenée à ce métier, ça c'est vrai. Les livres, mais aussi les films. Le Mystère von Bülow, je l'ai vu 250 fois. Donc, il n'y a pas du tout d'avocat dans ma famille, mais la fiction m'a amenée vers ce métier. Et moi, je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des images, effectivement, puisque depuis que les photos, puis les caméras ont été exclues des prétoires. Alors, elles vont peut-être un peu y revenir, là, avec la loi de d'Éric Dupond-Moretti. Mais
que c'est
vrai que sans les dessinateurs judiciaires, en fait, il n'y a pas d'image et que tout ce qu'on raconte est souvent très, très, très abstrait. Et je pense que c'est important. C'est vraiment un métier, comme vous disiez, méconnu, mais essentiel dans le cadre des grands procès.
Et vous avez parlé de Ruth Rendell, qui s'est d'ailleurs emparée de l'affaire des sœurs Papin à sa manière. Qu'est-ce qui vous intéressait dans cette affaire, dans ce procès surtout? Pourquoi le raconter dans un livre? Quel était le propos au départ?
Alors, Donc le roman que j'ai écrit, Par-delà l'attente, évoque Germaine Brière, qui a été l'avocate des sœurs Papin. Moi, je n'ai pas voulu écrire au départ sur les sœurs Papin, j'ai voulu écrire sur Germaine. La question que je me suis posée était celle de savoir si une femme avocate avait déjà accompagné son client à l'échafaud, puisqu'à l'époque de la peine de mort, les avocats assistaient aux exécutions, et vous avez de nombreux récits en littérature, des témoignages d'avocats. On pense évidemment à l'exécution de Robert Badinter, mais vous avez aussi une scène comme ça dans le Pullover rouge à Marseille avec Paul Lombard. Et en faisant ces recherches sur Google, hein, vraiment c'était une curiosité, je suis tombée sur Germaine Brière, qui est donc la deuxième femme avocate à avoir défendu un condamné à mort. Et c'est là que j'ai appris qu'elle avait défendu les sœurs Papin, et j'ai été stupéfaite de savoir que pour le fait divers le plus retentissant de l'entre-deux-guerres, on est quand même en 1933, les accusés étaient défendus par une femme. Alors que les avocates pénalistes ont depuis longtemps quand même eu du mal à pouvoir défendre des procès les plus médiatisés, les plus importants, parce qu'elles souffraient pas seulement d'un déficit de notoriété, mais vraiment pour moi d'une image d'Épinal en fait dans le grand public, qui est celle de l'avocat pénaliste, qui est un homme, en général d'ailleurs au physique assez imposant, avec une grosse voix, qui gronde, qui s'indigne. Et c'est vrai, on parlait de lui à l'instant, mais Éric Dupond-Moretti, ça ne nous aide pas forcément, nous, les femmes pénalistes, que c'est vraiment la quintessence du ténor. Voilà. Et donc, je connaissais ce fait divers, notamment grâce à Utrendel, parce que j'avais même étudié au cours d'anglais, donc l'analphabète, qui est une adaptation de l'affaire des sœurs Papin, mais qui introduit l'analphabétisme dans l'histoire, et qui a donné lieu à une autre adaptation au cinéma, cette fois, qui est La cérémonie de Chabrol, avec Sandrine Bonner et Isabelle Huppert. Donc on voit qu'en effet, l'affaire des sœurs Papin a déjà inspiré de nombreux auteurs, et pas des moindres. Il y a évidemment Les Bonnes de Jean Genet aussi, et le film Les blessures assassines, qui est sur l'affaire. Mais c'est vrai que sur le procès, sur l'avocate, mais même sur le procès, sur le lien entre crime et folie, puisque manifestement, Christine Papin était schizophrène, et c'est ce que l'avocate a essayé de faire valoir au procès. Personne ne s'était jusque-là arrêté, en fait, à cette deuxième partie de l'histoire, hein, qui est celle du procès.
Avec, oui, vous disiez être une avocate, on apprend notamment des choses folles. Enfin, j'ai découvert des choses sur Germaine qui, pour être avocate, il fallait quand même prouver des choses à l'établissement qui sont absolument hallucinantes. Qu'est-ce qu'elle a dû montrer ?
Alors, dans ce cas précis, donc les femmes peuvent être avocates depuis le début du XXe siècle. On parle toujours de Jeanne Chauvin, qui est la première avocate à avoir prêté serment au barreau de Paris. Mais ce que j'ai appris à travers mes recherches sur Germaine Brière, c'est qu'elle a voulu s'inscrire, puisqu'elle avait tous les diplômes requis, ce qui déjà était un tour de force quand on était une jeune femme du Mans à l'époque, surtout à cette époque-là, puisque manifestement dans les dates, elle a suivi ses études pendant la Grande Guerre. Et quand elle a voulu s'inscrire, non, ces messieurs du barreau du Mans en avaient décidé autrement. On décide de faire une enquête sur sa moralité par le commissaire de police sous la houlette du procureur de la République. Enquête qui a conclu à l'absence de moralité suffisante pour inspirer la confiance et le respect qui est propre à chaque avocat. Et donc, elle a fait un procès au barreau du Mans devant la cour d'appel d'Angers, au cours duquel elle a produit des témoignages et également un certificat de virginité. C'est quand même un truc incroyable. Donc, était-il authentique, était-il de complaisance ? Voilà, moi j'ai eu ma petite idée sur le sujet, mais vous savez, j'ai fait mes recherches avec mon éditrice Véronique Cardi, qui est dans la salle, et donc on savait qu'elle avait fourni ce certificat, et quand elle a lu le premier manuscrit, on a relu ensemble, et elle me dit, donc en fait ce que tu dis, c'est que c'était un faux certificat. J'ai dit, bah oui, elle avait 24 ans, enfin les années 30, moi j'ai lu beaucoup de livres sur cette époque, je pense qu'une femme comme ça, qui avait fait des études et était une femme libre, et même si sans faire d'études, bon, à cet âge-là, voilà. Mais oui, c'était un parcours du combattant pour elle. Et ce qu'on voit après, en revanche, dans la presse locale, puisque grâce à Gallica, on a accès à tous les articles de l'époque, c'est vrai que c'est un outil extraordinaire. elle est vraiment devenue une avocate pénaliste incontournable, en fait, au barreau du Mans, avec toujours des articles très élogieux de la part des côtiers, de la chronique judiciaire. Et elle défendait les démunis au tribunal correctionnel, à cour d'assises, et elle s'était vraiment fait un nom. Donc c'est pas étonnant qu'elle ait défendu les sœurs Papin quand elles ont été placées en détention immédiatement après le crime. Ce qui est plus étonnant, c'est qu'elle soit restée l'avocate et que personne ne lui soit passé devant. Alors, un avocat a défendu Léa au moment du procès, mais elle n'a pas, elle l'avait nommée conjointement avec Germaine Brière. Et donc, moi, ce que j'ai imaginé, ce que je pense, c'est que c'est Germaine Brière elle-même, en fait, qui a été chercher un avocat quand elle a vu commencer à y avoir un conflit, en fait, un conflit d'intérêts entre les deux sœurs, puisque Christine a déclaré qu'en fait, sa sœur n'avait rien fait, alors que Léa persistait à vouloir être criminelle aux côtés de sa sœur. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'elle ne pouvait plus être défendue par le même avocat.
Véronique Sucet, ça fait écho un peu à votre premier livre, quand même, où vous pénétrez la psyché d'une avocate qui est en proie à une affaire assez terrible.
Au Mans, oui.
Ouais. Au Mans, en plus. Pourquoi avoir voulu, alors que vous étiez directrice d'établissement pénitentiaire, également aller un peu, peut-être, c'est pas vraiment de l'autre côté, mais en tout cas explorer une autre facette de tout ce système judiciaire et devenir avocate?
Mais parce que c'est formidable dans une vie professionnelle de pouvoir en avoir plusieurs et que sans doute ce qui me menait, c'est à la fois le goût du défi, mais aussi de la rencontre, de la découverte comme aujourd'hui. Je crois que c'est aussi ça qui pousse et qui porte à écrire. C'est aussi ce plaisir de la rencontre. Et puis, je ne quittais pas l'administration pénitentiaire parce que j'étais lasse. Au contraire, j'avais vraiment envie, c'était une opportunité. Alors bon, peut-être qu'en 2008, ce n'était pas la meilleure idée que j'ai eue, j'allais dire, financièrement. Voilà, le libéral ne rimant pas toujours avec liberté. Bon, quand on est haute fonctionnaire en 2008 et qu'on part pour le barreau, ce n'était pas forcément la meilleure idée. Mais je disais, bon, voilà, je passais des barreaux. Au barreau. Bon, une fois qu'on l'a faite une fois, on ne peut pas la refaire deux fois, mais voilà. Donc voilà, néanmoins, je suis effectivement revenue, je ne dirais pas à la maison, il ne faut pas exagérer, mais en tout cas en prison, mais parce que, avec d'ailleurs un intérêt qui ne s'est pas départi avec les années, puisque voilà, c'est un métier évidemment passionnant, mais en tout cas, ça enrichit aussi évidemment la pratique professionnelle. Et puis, j'ai été assez bien accueillie. Au barreau du Mans, je n'ai rien eu à fournir et j'ai été plutôt bien accueilli par mes confrères et consoeurs.
Alors racontez-moi comment ce livre il est né, Fragments de prison, ces entretiens. Je crois que c'est beaucoup, on le sent, la rencontre, l'entretien avec les gens au cœur de ce livre.
Eh bien, justement, après le premier livre, Défense légitime, on me disait, mais enfin, pourquoi tu n'écris pas sur la prison? Et en fait, ce pourquoi s'est mu en bah oui, pourquoi pas, mais je cherchais vraiment le bon angle. Je n'avais pas envie que ça soit des témoignages. Je craignais que de retomber peut-être dans ce qu'on avait déjà lu, les clichés, etc. Je me demandais si j'étais vraiment la meilleure personne pour écrire sur la prison, et en fait j'y ai songé, et je n'avais jamais pris de notes au cours de ma carrière, mais c'est vrai que les histoires comme ça sont remontées, ça avait sans doute sédimenté, c'est remonté. Et je me suis essayé avec le premier texte qui ouvre le livre et qui s'appelle Monsieur B, où je raconte voilà, cette anecdote quand je suis toute jeune directrice et que j'accompagne un homme qui n'est pas sorti depuis 25 ans et qui met son plus beau costume, mais d'il y a 25 ans, voilà, et que je me retrouve parce qu'il fume un gros cigare à la sortie et que j'ai l'impression d'être dans un film de Melville, comme ça, dans un nuage de poussière. Enfin bref, voilà. Et je me suis dit, bah, en fait, c'est très romanesque aussi, et on tient quelque chose, mais vraiment, c'est faire découvrir la prison par le prisme de la rencontre. C'est ça qui m'intéressait. Voilà. Et donner voilà, quelques clés de compréhension de l'organisation, du fonctionnement. Mais, donc c'est pour ça que ce sont des histoires vécues, puisque tout est vrai. Mais en même temps, il y avait parfois... voilà, on peut même s'interroger. Mais non, je confirme que tout est vrai. Mais c'était vraiment très romanesque. Et parfois, on sait bien que la réalité dépasse parfois la fiction. Voilà. Et ils sont tous anonymisés, sauf Patrick Henry. Pourquoi Patrick Henry n'est pas anonyme? Parce qu'il est quasiment tombé aussi dans le domaine public. Et Patrick Henry, peut-être pour juste vous raconter cette petite anecdote, si j'ai le temps... mais Bon, Patrick Henry, voilà, c'était un peu quand même le symbole, l'abolition, on parlait de Robert Badinter, symbole de l'abolition de la peine de mort, enfin, en tout cas, moi, j'avais aussi beaucoup été élevé, éduqué, j'avais lu Le Pullover Rouge, et puis ensuite, L'Exécution, et je suis toute jeune directrice à Caen, et je rencontre Patrick Henry, qui, bon, n'est pas quelqu'un d'extrêmement intéressant, enfin, voilà, c'est pas un grand aura. Et puis il obtient la libération conditionnelle, alors ça fait grand bruit, et on lui conseille quand même de changer de nom, si ce n'est le patronyme, au moins le prénom. Bon. Et il ne le fait pas, alors je pense que c'est plutôt par une ultime provocation plutôt qu'une fidélité à son patronyme. Et voilà, et donc il sort Patrick Henry. Bon. Et avant d'ailleurs de faire ses photos pour Paris Match à Ouistreham, on le sort sous une couverture de nuit. Le surveillant qui ouvre la porte nous regarde et avec le directeur, il nous dit « Mais vous êtes sûr de ce que vous faites ?» Bon, c'était complètement incroyable. Et chose étonnante, il revient quelques jours après. Il demande à me voir. Je trouve qu'il revient un peu vite. Et il me dit « Bah voilà, on m'a volé mon scooter. » Ah, bon. Et je lui dis « Et ?» Eh bien, écoutez, j'ai décliné mon identité au commissariat, et quand j'ai décliné mon identité, Patrick Henry, l'officier de police judiciaire lui a dit, ben, monsieur, achetez-vous un cadenas. Et il revient, et voilà, il me dit, enfin, quand même, et il s'en remet à la loi en disant, enfin, quand même, c'est incroyable qu'on n'ait pas voulu prendre ma plainte, voilà. Et donc, c'est évidemment, je finis par cette anecdote, mais c'est aussi une façon, voilà, d'aller à la rencontre de ces. Alors, il y a aussi des anonymes, mais qui ont autant de panache.
Asdine, comment dire, vous étiez sur plusieurs sujets quotidiens, etc. Et pendant 9 mois, vous avez été présent pendant les procès. Comme si vous ne pouviez rien faire d'autre, comme si vous ne pouviez pas manquer ça. Est-ce qu'il y avait un côté, ce moment-là, je dois le vivre de l'intérieur en tant que journaliste ?
Oui, c'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire il y a un peu de cynisme dans notre profession. On veut être témoin de l'histoire. Donc l'histoire, c'est plus le moment est journalistiquement grave, plus il devient intéressant. Donc il y avait cette volonté, comme vous l'avez bien dit, d'en être. Voilà. Et dans l'émission pour laquelle je travaillais, Quotidien, on a eu un positionnement volontaire, fort, choisi. C'était d'être là, quelle que soit l'actualité. C'est-à-dire, on était en année quand même présidentielle. Il y avait d'autres affaires. Il y a eu des moments, comme on dit, d'un peu de creux dans ce procès de 9 mois, 10 mois, si on prend les moments de Covid et les congés. Parfois, on était. Il y avait le valeureux Valentin qui était là au premier rang, mais parfois, on était la seule caméra à venir faire les duplex, les sujets. Et, oui, parce qu'on voulait que le terme historique le soit vraiment dans notre traitement. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu en faire un livre. Et juste, je voulais rebondir sur une... Je peux revenir en arrière ?
On est là
parce qu'on parle, vous parliez des femmes pénalistes. Et c'est aussi l'histoire, d'une révélation du barreau Olivia Ronen, l'avocat de Salah Abdeslam, qu'il a choisi, dit-il, parce qu'il l'a vu sur un plateau télé, parce qu'elle défendait des assignats à résidence pendant l'état d'urgence, que lui, il aurait, parce qu'il regarde la télé, il aurait été ébloui par sa prestation. Et c'était aussi un des paradoxes qu'on a voulu montrer dans Dossier V13, le paradoxe de ces accusés qui, évidemment, rejettent tous nos principes de démocratie, tout notre mode de vie occidental, qui, évidemment, n'accepte pas l'émancipation féminine, mais quand c'est dans leur intérêt. Ils choisissent des femmes parce qu'elles sont les meilleures, mais aussi par stratégie, parce que porter la voix du salafisme, du djihadisme et de Daesh par la voix d'une jeune Parisienne de 31 ans, ben pour eux, ça avait plus d'effet. Voilà, et ce rapport, et même visuellement, c'était toujours intéressant de voir comment ils s'en remettaient à une femme pénaliste, c'est-à-dire qu'on les voyait quand à midi, rentrer, à midi 15, ils rentraient dans le box, et ils attendaient leur avocate pour recevoir un conseil, pour murmurer, enfin, ça vous le savez mieux que moi, les conversations entre un avocat, une avocate et le client, et je trouvais ça voilà, intéressant de dire, bah oui, même quelqu'un qui revendique une appartenance à un groupe rejetant des principes, quand son intérêt est en jeu, ben, l'intérêt personnel reprend toujours le dessus.
Julia Minkowski, justement, choisir une avocate pour la défense, est-ce que c'est souvent ou ça peut être parfois un choix stratégique au vu de ce qu'on peut donner comme image?
Alors, dans le livre de poche de mon précédent livre qui vient d'être publié, on a ajouté un chapitre justement sur Olivia Ronen qui parle de sa défense de Salah Abdeslam. Alors, moi, le souvenir que j'ai, c'est que elle a défendu surtout, elle a eu un résultat assez exceptionnel à la cour d'assises pour un détenu et que c'est la raison pour laquelle il lui a écrit. Et quand ils se sont rencontrés, justement, ce qu'elle explique, c'est qu'il lui a serré la main. Enfin, il y avait absolument aucune difficulté. Elle lui a d'ailleurs fait savoir qu'elle était de confession juive. Enfin, je pense aussi que ça a participé de leur rencontre, parce qu'en fait, la première rencontre entre un avocat et son client, surtout quand ça se fait au parloir, ça va être sur des petites choses. Frédéric Ponce, qui a été l'avocate de Guy Georges, nous a dit, on l'a écrit dans le livre, moi je voulais aller le voir avant d'accepter pour m'assurer qu'il était sympathique, ce qui paraît assez bizarre quand on pense qu'il s'agit d'un serial killer. Mais c'est vrai qu'en fait il y a de ça, c'est-à-dire la sympathie c'est pas ça, mais c'est est-ce que vous êtes prêt à défendre cet homme, puisque évidemment qu'on défend des hommes et pas des causes, enfin, ou des femmes d'ailleurs, un peu moins souvent. Hein. Je rappelle qu'il n'y a que 5% des détenus qui sont des femmes. Mais il y a vraiment une question de relation. Si vous défendez quelqu'un qui est accusé de viol, vous ne défendez évidemment pas le viol, vous défendez cette personne qui est accusée. Alors justement, dans les affaires de mœurs aujourd'hui, vous pourrez remarquer, puisqu'il y en a beaucoup, que très souvent les hommes, souvent médiatiques, qui sont accusés de violences violence sexuelles, prennent des femmes comme avocates. Oui, je pense que ça relève de la stratégie. Il y a aussi une vérité qui est que notre parole en tant que femme est beaucoup plus libre à l'audience, c'est-à-dire que c'est toujours délicat de dire ça, mais il arrive dans des affaires que des plaignantes mentent. Ça arrive. Bon, il faut pouvoir en tout cas interroger la personne qui a le statut de victime au procès. Et c'est vrai que dans ces affaires-là en particulier, quand vous êtes une femme, vous n'allez pas être soupçonné de machisme, etc. Et peut-être aussi que vous allez savoir davantage poser les bonnes questions, parce que vous pouvez vous projeter de façon beaucoup plus concrète qu'un homme sur une situation donnée. Et je pense qu'aussi vous êtes plus libre dans votre plaidoirie. Donc c'est vrai que il y a à la fois de la stratégie, parce que bah, vous êtes défendu par une femme, donc ça donne une image de vous qui est celui de quelqu'un qui pense qu'une femme est capable de le défendre. Mais il y a aussi cette vérité qui est qu'une femme sera certainement plus efficace parce que plus libre. Ça, c'est vrai.
Et Asdine, dans le cas de votre livre, ça pose aussi la question, d'ailleurs Valentin aussi, de vous montrer, et ça c'est très intéressant, un peu les coulisses du procès où les journalistes entre eux discutent beaucoup de comment on raconte cette histoire. Est-ce qu'on la raconte telle qu'elle est, avec tous les faits précisément, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on doit ne pas dire, qu'on doit dire autrement? C'est un sujet important, ça.
Oui, sur un point, on s'est beaucoup interrogé, c'est que faire de la parole de Salah Abdeslam. Alors évidemment, le premier jour, quand il prend la parole, quand il s'exprime, aveuglément, tout le monde a relayé, parce que pendant 6 ans, il s'était enfermé dans un mutisme, et il n'avait pas voulu répondre aux questions des enquêteurs. Donc là, quand il a parlé, on a tous retranscrit. Puis le lendemain, il a encore parlé. Puis en fait, on se rendait compte qu'il voulait parler. Et le piège qu'on voyait devant nous, c'était allons-nous participer à sa propagande ? Donc c'était vraiment le débat, moi, que j'avais avec mes confrères. Qu'est-ce qu'on fait de sa parole ? On a relayé parce que c'est avant tout un procès, c'est celui des accusés. On voulait l'entendre et ça nous a aussi permis de voir comment, on le voit à travers l'évolution dans les chapitres. Au début, Salah Abdeslam, c'est quelqu'un qui revendique fièrement son appartenance à Daesh. Donc quelque part, il fait un aveu, je participe aux attentats puisque je me félicite de leur commission. Puis ensuite, il donne l'impression de, peut-être conseillé aussi par son avocat, de vouloir, entre guillemets, aider, collaborer, ou en tout cas de participer à sa façon à la manifestation de la vérité. Puis, il va encore une nouvelle fois se renfermer. Et puis, il va une nouvelle fois être provocateur. Et puis, il va se mettre même à pleurer. Et ça, ça nous paraissait quand même important dans sa stratégie. Alors, est-ce qu'il a changé parce qu'il a été ému par les 5 semaines de témoignages de victimes et de rescapés? Est-ce qu'il a été cynique? Est-ce que la lettre qu'a écrite sa mère, qui a été lue, ça l'a fait changer? On ne sait pas, mais en tout cas, c'était pour nous une vérité importante. Voilà. Donc oui, on s'interrogeait, et c'était quand même sain, comme ça, de débattre entre nous.
Et Valentin, d'ailleurs, est-ce que c'est la même chose avec le trait du dessin? Parce que derrière le trait du dessin, on met forcément une intention. Je ne sais pas, quand on dessine Salah Abdeslam, on a envie de... Je ne sais pas, on doit faire un trait de dessin un peu neutre.
Oui, justement, les questions revenaient sur quand les gens venaient nous voir au stand. On n'est pas caricaturiste, en fait, on est un peu globalement, comme les photographies sont interdites au sein de la salle d'audience, on remplace vraiment, voilà, on a le rôle vraiment de rendre compte de la salle, des gens qui font partie du procès, de la manière la plus neutre possible. Donc ouais, on les caricature pas, on n'a pas un rôle politique, le faire avec une tête de méchant. Donc,
c'est dur ce réalisme neutre, ce...
Bon, je me suis pas trop posé la question, à vrai dire, mais non, c'est comme en fait, je l'ai pris comme un autre. C'est évidemment c'était un procès gigantesque, mais je l'ai pris vraiment comme un autre procès. J'ai essayé de pas changer mes habitudes et non, faut les dessiner de façon neutre, ouais. C'est important.
Vous, Véronique Soucet, oui. L'idée c'était vraiment justement d'ouvrir les vannes, de donner la parole et de montrer. À travers les gens qui vivent la prison, ce qu'est la prison loin des clichés. Parce qu'on est quand même dans un pays où le surveiller et punir, le texte, le théoricien n'est jamais mis un pied en prison. Donc, est-ce que ces gens-là apportent une autre vérité? Et vous vouliez justement pourfendre un peu les clichés de ce que peut être la prison
Oui, c'était vraiment l'objectif, j'allais dire, de prendre le lecteur par la main, de l'accompagner, qu'il soit derrière moi, justement, à la rencontre. Et c'est pas chronologique, et donc j'ai voulu faire des courts textes, donc qui sont des fragments d'hommes, de femmes, tout au long de ma carrière, de personnes qui sont là en détention provisoire. Donc j'explique aussi, il n'y a pas de pédagogie, mais j'ai quand même essayé dans un chapitre d'expliquer la différence entre une maison d'arrêt, un centre pénitentiaire, un centre de détention, parce que c'est très méconnu. Et vous ferez l'expérience d'ailleurs, peut-être même à Brive ou à Tulle, mais quand vous arrivez dans une ville, il y a des panneaux de signalisation, vous voyez le commissariat, vous voyez l'hôpital, la gendarmerie, rarement un panneau pour indiquer la prison. Ou alors vous êtes au dernier carrefour, vraiment. Hein, il faut vraiment un bon GPS. Et puis souvent, ça a des noms absolument incroyables, notamment, je vous laisse... à votre sagacité, mais par exemple au Mans, c'est la prison des Croisettes, quand même, ça ne s'invente pas. Voilà, donc oui, c'était vraiment faire aussi cette part belle à la rencontre, mais j'allais dire, c'est aussi en écho à mon premier livre. Mon premier livre, c'était aussi la rencontre, comme vous disiez très justement, enfin, à un moment donné, on défend le crime et pas le criminel, et pour le coup, c'était pour moi... en tout cas, l'opinion le qualifiait de monstre parce que ce qu'il avait fait était monstrueux. Mais néanmoins, même si on est commis d'office, d'ailleurs, on peut toujours refuser. L'idée, c'est est-ce que la rencontre se fait ou pas ? C'est-à-dire, est-ce qu'il me reste assez, j'allais dire, d'humanité pour percer, pour pouvoir se retrouver peut-être sur le plus petit dénominateur commun ? Mais c'est ça qui fait. C'est aussi mes histoires de fragments de prison. Ils nous ressemblent, et j'espère qu'ils vont nous rassembler, mais ils nous ressemblent. Et vraiment, alors, il y a des grands criminels, mais il y a aussi des une jeune femme qui vient depuis sa minorité, etc. Et je dis, en fait, elle fait une carrière parallèle à celle de la surveillante. Voilà, et entre elles, finalement, va se passer un petit mouchoir blanc, comme ça, parce qu'elle va essuyer ses grosses larmes, et puis petit à petit, les larmes vont en tout cas, les yeux vont s'assécher, et puis elle va passer du quartier mineur au quartier majeur. Donc oui, c'était vraiment... J'ai eu quelques scrupules parce que je me suis dit, bon, peut-être qu'on va... Alors, c'est un parti pris, puisque ça fait 22 ans que j'exerce, et j'ai exercé à la fois au ministère et aussi en détention, donc c'est un parti pris. Mais je me suis dit, bon, peut-être qu'on pourrait me faire, non pas le procès, mais en tout cas la critique que j'ai du le corps ou que je ne parle pas de ce que, pour le coup, on connaît, de ce qui est sombre, de la violence, de la sursuicidité, de ce qui est de la promiscuité, de la surpopulation, etc. Donc, parce que j'aime énormément Soulages, eh bien, j'ai fait un chapitre qui s'appelle Outre Noir, et où je dirais, dans ce chapitre, j'ai mis, voilà, tout ce qui était de plus noir que l'on sait. Voilà, de manière un peu plus poétique, pour pouvoir laisser entrer la lumière et les anecdotes et les choses cocasses. Et voilà, et parfois, je crois qu'on rit aussi.
Oui, on rit. Et puis surtout, moi, je retiens une scène qui est... Je ne pense pas que ça a été déjà abordé de cette manière, mais c'est les sens, la manière dont être en prison, c'est aussi priver les gens de leur sens. Et à la libération, c'est une découverte, redécouverte de tous les sens.
Oui, donc... Je pense qu'on reconnaît assez bien le criminel qui sort pour cette première fois. Ce chapitre s'appelle « Première fois ». Les journalistes l'ont dit, donc je peux le dire ici. Il s'agit de Jean-Claude Roman. Et on sort une première fois, parce qu'évidemment, ce n'est pas la libération conditionnelle. D'ailleurs, j'explique que ce n'est pas la liberté, et qu'on sort progressivement. Et ce jour-là, effectivement, c'est une sortie collective qui est une mise à l'épreuve. On se réadapte. Vraiment, c'est progressif. Avant d'ouvrir les portes. J'ai commencé ce chapitre pour faire part de mes impressions de cette première fois. J'allume la radio dans le minibus qui nous conduit dans la campagne du Berry. Et il y a cette chanson d'Alain Souchon, Les Cadors, on les retrouve aux belles places. Les autres, c'est Saint-Maur, Châteauroux, Palace. Et on sort de Châteauroux, de Saint-Maur, donc c'était assez cocasse aussi, ça ne s'invente pas. Et cette première fois, j'ai voulu la raconter, puis je me suis dit, mais au fond... qui mieux qu'eux pourrait aussi le raconter, cette sensation mais qu'on n'a pas, par exemple, marché sur des dénivelés, c'est des surfaces planes pendant 20 ans, hein, on n'imagine pas ça. Et toutes ces sensations de ne plus avoir le regard barré dans l'horizon, c'est-à-dire qu'on voit loin, très loin. Et il y a, oui, les sens sont complètement troublés. Il y a comme quelque chose... Il peut y avoir un peu, vous voyez, comme ça, la soufflerie là, qui s'arrête, ça fait du bien. Ben, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ça saoule aussi. Ça saoule. C'est comme s'il y avait voilà, une overdose de respiration et de sens. Et donc, voilà, j'avais voulu. Et donc, je lui ai donné la parole dans ce texte pour qu'il raconte aussi ça première fois.
Vos trois textes, à leur manière, en mettant le focus sur différents aspects de la machine judiciaire, interrogent forcément la société et la manière dont on vit ensemble, dont on traite nos criminels, nos coupables. Julia Minkowski, l'affaire des Sœurs Papin, c'est aussi la fresque d'une époque qui était quand même très particulière. Est-ce que vous pouvez me raconter ça ?
Oui, Germaine Brière, elle se retrouve face à un fait divers dont toute la société s'empare. Donc les deux bonnes, comme on disait à l'époque, la cuisinière et la femme de chambre, les deux sœurs qui vivent en haut dans les chambres de bonnes et qui, sans mobile encore connu à ce jour, hein, vont massacrer leurs deux patronnes, leur arracher les yeux de leur vivant, ce qui reste encore unique dans les annales criminelles. Pour la société de l'entre-deux-guerres, qui est une société qui va vers la modernité, mais avec encore beaucoup d'archaïsme. On le voit d'ailleurs avec cette jeune avocate qui n'arrive pas à s'inscrire au barreau. Bah, finalement, c'est la conscience pour la bourgeoisie que dans sa propre maison réside peut-être la révolution ou la révolte, et qui sait si le bon médecin, le bon notaire ne va pas être empoisonné demain en mangeant sa soupe préparée par sa cuisinière ou être égorgé dans son sommeil par sa femme de chambre ou par son chauffeur. Donc oui, il y a une espèce de vent de panique qui s'empare de la société française. Et de l'autre côté, les intellectuels, les communistes, qui, eux, s'emparent de ça, bah, comme justement le symbole d'une lutte de classe. Les surréalistes qui, eux, encensent, en fait, l'espèce de beauté morbide de la scène de crime. Donc oui, c'est un moment très particulier dans la société. Et d'ailleurs, Simone de Beauvoir le raconte très bien dans ses mémoires. Elle va revenir en fait plus tard sur cette époque et va dire mais finalement on s'est emparé de ça. On a tous estimé que finalement les deux patronnes avaient eu ce qu'elles méritaient, mais on est complètement passé à côté des personnalités de Christine et Léa et de la folie, puisqu'il y a la question de la relation entre crime et folie est au centre de la défense de Germaine Brière. En fait, on a totalement oublié que ces deux pauvres filles, comme on a pu le voir au procès, n'étaient absolument pas des révolutionnaires, mais elles étaient justement quasi analphabètes. Et il y en a une qui manifestement était schizophrène. Et Germaine Brière, ce que moi je trouve assez formidable dans sa plaidoirie, c'est que là où ça aurait été vraiment très facile de plaider la lutte des classes et de plaider les circonstances atténuantes en disant qu'elles étaient très maltraitées, déjà ça ne ressortait pas du tout du dossier, puisque moi j'ai pu aller au Mans, aux archives, consulter le dossier d'instruction, et en fait il n'y avait aucun témoignage pour venir dire ça. Elles étaient plutôt bien traitées, très bien payées par rapport à leur position et l'époque. La famille Lancelin prenait à sa charge les nouvelles cotisations sociales, etc. Donc en fait, le dossier ne collait pas avec cette image qu'avait eu la société. Et donc elle a décidé de se battre sur l'irresponsabilité et sur la folie. Sauf que dans ce procès-là, à cette époque-là, avec ce qui s'était passé, c'était impossible de faire valoir ça, notamment pour des femmes, puisque autant le mari jaloux qui assassinait son épouse à l'époque, on appelait ça le crime passionnel, hein, ça n'existe plus, il pouvait être acquitté, autant la fille qui avait été victime d'inceste, je dis ça parce que exactement au même moment, il y a l'affaire Violette Nozière, que certains d'entre vous connaissent peut-être, de cette jeune femme qui a empoisonné ses deux parents et qui a tué son père, et sa mère s'est constituée partie civile contre elle quand même, et qui passe à la cour d'assises quelques mois après les sœurs Papin. Domestiques, dont une manifestement folle, parce qu'elle fait une crise hein, quand elle est en détention au Mans, et on voit bien qu'elle est folle. On va rien leur accorder du tout. Et ces hommes qui jugent, puisque à l'époque il n'y a pas de magistrate, il va falloir attendre 1946 pour qu'il y ait des femmes dans la magistrature, et il n'y a pas de jurés femmes, puisque comme aujourd'hui les jurés sont tirés sur les listes électorales et qu'il n'y a pas de femme sur les listes électorales. Donc en fait, vous avez ces deux femmes jugées par ces hommes, avec cette femme avocate très moderne qui fait venir son expert, qui plaide l'irresponsabilité pénale, mais qui évidemment n'est pas attendue. Il fallait que les bourgeois se protègent entre eux. Et d'ailleurs, un des experts, dont on a retrouvé plus tard la correspondance, va reconnaître que tout ça n'était qu'une mascarade et qu'il était forcé en fait de porter ses conclusions, à savoir qu'elles étaient tout à fait saines d'esprit. Elles vont se retrouver en prison à Rennes, qui est donc l'établissement que dirige aujourd'hui Véronique. Et quelques semaines plus tard, Christine Papin est transférée à l'asile, puisque le directeur de la prison estime qu'elle n'a pas sa place en détention. Mais encore aujourd'hui, où elle finira ses jours, d'ailleurs quelques années plus tard, puisqu'elle va cesser totalement de se nourrir, comme il arrive souvent avec les schizophrènes. Mais encore aujourd'hui, on le voit dans de nombreux faits divers, la notion de folie et d'irresponsabilité pénale est très mal acceptée par la société. C'est vraiment quelque chose de difficile. Et quand on exerce, évidemment, on est aux prises avec beaucoup de réalités. Ça nous donne un autre regard, on en a bien conscience. Et c'est très difficile de faire valoir qu'un fou n'a pas sa place en prison, de la même façon qu'il est très difficile de faire valoir qu'il existe d'autres peines que la prison. Et C'est pour ça que c'est si précieux d'avoir un livre comme celui dont on parle aujourd'hui, parce que on parle rarement de la prison. Ça concerne la société tout entière. Quand vous avez dit, je ne sais pas si vous en ferez expérience, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va leur dire qu'ils peuvent tous se retrouver en prison ? Non, c'était les panneaux de signalisation. Mais c'est vrai que ça concerne la société tout entière, parce qu'on ne sait jamais, on peut être accusé à tort. Demain, n'importe qui peut basculer dans la criminalité. On peut avoir un fils, un frère, une sœur. Enfin, voilà. Et l'opinion publique ne s'empare pas de la prison, à part pour s'indigner, en fait, de choses ponctuelles. Ah bah ils ont fait du karting, ah bah ils se sont mariés, ah bah, mais en fait derrière tout ça il y a une réalité qui est celle que vous venez de décrire, et oui, ça reste des humains dont il faut bien s'occuper.
Il y a un phénomène d'attraction-répulsion hein, pour ce monde clos de la prison, et on se dit qu'est-ce qui peut se passer derrière ces hauts murs, etc. Moi je me souviens, bon, Salah Abdeslam était surveillé 24 heures sur 24, et donc vous imaginez bien que quand vous êtes directrice de cabinet du ministre et du directeur de l'administration pénitentiaire, j'avais une oreille un peu attentive sur Salah Abdeslam. Mais c'est un mouvement d'attraction-répulsion, parce que effectivement c'est un monde un peu inconnu, mais il faut dire aussi que l'administration se dit mal, hein, elle se dit mal. Il y a comme une difficulté à... C'est vrai que parfois les journalistes me le disent. Écoutez, c'est quand même très compliqué d'entrer en prison. Il faut toujours des beaucoup, beaucoup d'autorisations, etc. Mais c'est aussi pour ça qu'en en tout cas, il y a eu cette polémique sur cet été. Je me suis dit, bon, c'est peut-être bon signe, en fait. C'est peut-être que fallait vraiment... Je ne sais pas s'il y aura un tome 2 à Fragments de prison, mais il y a encore quand même des choses à comprendre et à dire. Et peut-être, au lieu de grandes idées, eh bien peut-être aller à la rencontre des personnes qui y sont et qui peuvent en dire quelque chose. Voilà, qui peuvent en dire quelque chose. Et puis, j'en ai rencontré depuis vendredi des lecteurs, et certains parfois en colère, parce qu'il y a eu une affaire là, dernièrement dans la région, enfin, ce jeune qui a tué cette jeune fille. Et je suis interrogée, c'est normal, hein, je suis là, je représente cette administration et j'y travaille, et en me disant, mais à quoi ça va servir la prison, enfin quand même c'est pas normal, etc. Et donc on a tout de suite des débats sur le sens de la peine, hein. La prison est la peine de référence, est-ce qu'elle est utile pour tous? On parlait de la folie, on connaît l'état de la psychiatrie en France aujourd'hui, et évidemment on a aussi des personnes atteintes de troubles de la personnalité et du comportement en détention. Mais si on préserve l'humanité des personnes qui sont en détention, si on les considère comme des citoyens, des hommes, des femmes, debout, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais on protège aussi la société. Parce que je le dis dans le livre, la porte d'entrée est toujours la porte de sortie, quelles que soient les années. Et donc, s'adresser à des gens comme les citoyens, c'est ce que fait aussi le procès, c'est-à-dire que Salah Abdeslam, eh bien oui, on est dans un état de droit, et oui, il peut parler, et oui, c'est important de l'entendre, parce que, justement, on est dans un état de droit, et que, a priori, c'est ça aussi qui protège la société. Et faire en sorte que les gens qui entrent en prison soient un peu mieux en sortant, bon, on n'y réussit pas toujours, mais c'est quand même un peu ça la responsabilité, et c'est une protection de toute la société, c'est pas juste par désir d'humanisme comme ça, grandiloquent.
Ça me permet de finir sur une dernière question pour vous deux. Il y avait quand même un incroyable enjeu de société de juger Salah Abdeslam. Je crois que vous dites juger des faits sans faillir à l'émotion de se venger. C'était vraiment notre société qui était en jeu, oui, à travers le verdict.
Oui, enfin, je vais être dans le prolongement. Récemment, on a entendu sur un plateau télé dire qu'il ne fallait pas de procès, ou qu'il fallait un procès rapide, je ne sais pas quels avaient été les mots, et il faudrait perpète sur un soupçon, sur un début de commencement d'enquête. Voilà, je crois que vous avez compris à quoi je faisais référence. Alors que justement, ce procès, c'était un défi qui nous était soumis, un défi lancé à la justice, une justice donc défiée, une justice testée, avec comme objectif comment répondre à une organisation terroriste, comment répondre à la barbarie. Ben, soit on choisit l'option du talion, voilà, coup pour coup. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, on fait semblant de faire un vrai procès, un simulacre, et puis à la louche, on condamne tout le monde à la perpétuité, ou du moins les plus importants, ou bien on prend le temps, on ne fait pas semblant, et pendant 10 mois, on va écouter les arguments des uns, des autres, on va prendre le temps de confronter, de voir les manquements, les doutes, et c'est pour ça, selon moi, que ce verdict est venu. Alors je sais que tous les avocats de la défense ne pensent pas ça, parce que certains ont même fait une tribune pour critiquer le verdict. J'ai trouvé un peu étrange vu qu'ils n'ont pas fait appel. Bon, voilà, ils font pas appel, c'était leur outil, ils font pas appel, mais ils critiquent le verdict. Moi, j'ai trouvé ce verdict formidablement à l'écoute de ce qui s'était passé. C'est-à-dire que, oui, alors Salah Abdeslam a subi, entre guillemets, la peine maximale, perpétuité incompressible, mais derrière, les autres accusés... On a vu des peines moins importantes que les réquisitions du parquet national antiterroriste. On a même vu un accusé, Farid Karkash, qui était le faussaire, celui qui a fait des faux papiers pour des terroristes. Il a vu l'infraction terroriste retirée pour lui apposer celle d'escroquerie. C'est-à-dire, en fin de compte, après des années de prison pour lui, 10 mois de procès, on lui dit, en fait, vous n'avez rien à faire là, monsieur, c'était pas votre procès. Évidemment, il a pleuré. Et c'est cette dignité, en fait, de notre justice et qui, quelque part, a dit une chose. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais on continuera. Et c'était, je trouve, la meilleure réponse. Et c'est pour ça que nous aussi, on a été... On nous pose souvent une question au stand. Comment vous avez réagi après... comment vous êtes senti après ce procès? Pendant les 5 semaines de témoignages de partie civile, oui, on avait tous les larmes aux yeux. On tremblait, on voyait un père de famille qui avait perdu son fils, on discutait avec des gens qui étaient meurtris. Là, c'était difficile. Mais à la fin, quand le verdict est venu valider un temps judiciaire, en fait, qui a été pour moi bon et efficace, on s'est dit, en fait, ce qu'on a ressenti, c'était pas simplement de l'émotion pure, et c'était pas simplement des larmes, c'était aussi voir notre justice fonctionner. Voilà, parce que ce jour-là, enfin ce 29 juin, moi, je trouvais qu'elle a bien fonctionné.
On va finir sur ces jolis mots.
Merci.
On va peut-être prendre 5 minutes pour quelques questions du public. C'est toujours la première, la plus difficile. Après, si on n'a pas, c'est qu'on a bien fait notre boulot. Mais...
Ils sont impatients de venir nous voir dans les stands.
Bon, on va finir là-dessus, alors. Je vous invite à aller voir les auteurs sur leur stand.
L19.
Merci.